Bonjour Kostia Pache, directeur du Jazz Station. Je pense que tu as imaginé 2020 différente comme c'est passé. C'était l'année où, en septembre, le Jazz Station existait 15 ans, le moment où le lieu pouvait mettre en lumière son fonctionnement et avoir une visibilité importante. Malheureusement, il a été tout autrement. Quand as-tu réalisé que tout allait être complètement différent pour un long temps? Qu'est-ce que cela a fait à toi et à toute l'équipe de Jazz Station?
Eh ben, bonjour déjà Nico, je suis très content d'être là et de pouvoir en parler. Effectivement, 2020 c'était une année qui aurait dû être spéciale pour nous, mais pour une toute autre raison. Effectivement, on aurait dû, on a fêté nos 15 ans, mais on aurait dû les fêter de façon plus, plus festive et avec un peu plus de monde que ce qu'on a eu. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes hein, dans cette année. On a eu d'abord un peu la surprise en février, mars, quand on a vu que ce virus devenait une pandémie, que ça restait pas loin de chez nous comme on l'avait cru dans les premiers mois, et que ça se propageait très très vite. Et quand il y a eu le premier confinement, je pense que personne s'attendait à ce que ça dure vraiment très longtemps. C'est surtout en fait quand on est arrivé à partir du mois de avril-mai et qu'on était toujours, dans une situation très difficile que là, de plus en plus, en tout cas dans le secteur culturel, mais aussi dans mon entourage en général, on commençait à parler très très vite de on n'ouvrira pas avant septembre-octobre, voire c'est une année blanche, ce genre de choses. Donc petit à petit, il y a eu une sorte d'effet boule de neige un peu en disant bon bah on peut difficilement se projeter et puis un petit mouvement d'appréhension, de panique sur quels seront les prochains concerts parce qu'on s'est retrouvé très 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 vite avec énormément de concerts à reprogrammer en fait. Donc si on doit reprogrammer des concerts, ça veut dire qu'on peut pas prendre d'avance sur la suite, on peut pas soutenir de nouveaux projets, on doit d'abord évidemment garder les projets qu'on doit reprogrammer en priorité. Donc voilà, c'est surtout à mon sens, en tout cas de notre côté à la Jazz Station, à partir de avril-mai, où là on a commencé à se dire bon, la saison déjà elle est foutue, on travaille, on se concentre sur septembre. Septembre, ça devait être la période de nos 15 ans, donc on s'est dit c'est bien si on se concentre vraiment sérieusement sur cette période-là pour faire voilà. Une sortie de Covid, une belle sortie de Covid et doublement festive parce qu'on a notre anniversaire à fêter. Et bon, en fait, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, évidemment. Mais voilà, je crois que c'est vraiment à fin du printemps que les choses ont vraiment basculé en termes de comment voir l'année qui allait se terminer et comment surtout... communiquer avec les artistes et avec le public en ne donnant pas de faux espoirs en fait.
Mais au premier confinement, au moment que vous avez commencé à annuler les concerts ou le déplacer à un autre moment, comment étaient les contacts avec les musiciens? Comment ils se sentaient à ce moment-là?
Je parle en tout cas du point de vue de la Jazz Station, ça a été assez bien pris entre guillemets, assez simple en fait parce que comme je disais avant, je crois que personne ne s'attendait à ce que ça dure très longtemps. Et donc, ça a été quelque chose de bon, bah voilà, pendant 2-3 semaines, on doit annuler nos activités. C'est pas grave, on peut les reporter assez rapidement après. Et donc, voilà, bon, c'était des gigs annulés. Donc, c'est jamais agréable d'annoncer cette nouvelle-là. Mais même du point de vue de l'équipe, je crois qu'on a pas trop réalisé, en fait, hein, les 2-3 premières semaines de confinement, on réalisait pas trop ce qui nous arrivait. Ce qui a été difficile, c'est en fait c'est le deuxième hein, confinement, c'est le confinement de cet automne et de cet hiver là qui a été extrêmement dur pour tout le monde et surtout dans notre rapport avec les artistes pour reprogrammer une seconde fois des artistes qu'on avait déjà reprogrammés puis les suivants qu'on devait annuler qui eux savaient très bien qu'on ne pourrait pas les reprogrammer avant au moins un an. Enfin voilà, ça c'était beaucoup plus déprimant. Mais paradoxalement, le premier confinement, c'est pas trop mal passé en fait. Ouais. Pas trop mal. Il y avait encore beaucoup d'énergie. En se disant, bon, voilà, c'est pas grave, on va faire d'autres choses, on va se concentrer un peu sur nos activités qui ne sont pas des concerts en public. Nous, par exemple, à Jazz Station, on a aussi un studio pour faire des podcasts et des vidéos. Donc, on s'est dit, bon, voilà, dès que le confinement est terminé, on va pouvoir faire ces choses-là, réactiver un peu des projets. Et puis finalement, bah, rien. Mais voilà, ouais. Au début, c'était quand même assez. Tout le monde était quand même a pris les choses de façon assez positive, en tout cas dans notre équipe. Et donc, je crois qu'on a réussi aussi à véhiculer cet optimisme et un peu ce recul par rapport à la situation auprès des artistes et auprès du public.
Et donc maintenant, il y a la deuxième vague et le grand souci, c'est qu'on ne sait pas quand ça va réouvrir, quand ça peut redémarrer. Donc probablement, nous avons une saison perdue. Et
Ouais,
probablement.
ça c'est très difficile à accepter en fait. C'est très difficile à accepter pour plein de raisons. Déjà, ça fait presque un an là qu'on est à l'arrêt. Donc on n'est plus du tout dans une énergie, je pense, que ce soit la plupart des artistes, organisateurs, etc., dans une énergie vraiment de création. On est dans une énergie de réaction en fait, de survie et de dire il faut qu'on montre qu'on est toujours vivant et qu'on continue à exister, mais on n'est plus du tout dans des créations, dans des visions sur le futur, dans des propositions en se disant bon bah on fait quelque chose maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va faire à moyen ou à long terme. On n'est aussi plus du tout dans un soutien, je trouve, par exemple au nouveau projet, parce que par exemple en 2021, ça va être très compliqué que les nouveaux projets qui ont été créés puissent avoir une visibilité, puisqu'il y a déjà tout ce 2020 qu'il faut reprogrammer. Donc on a des gros problèmes d'agenda qui se posent, même si on reprend, admettons, en avril ou en mai. Voilà, entre avril et juin, la saison, elle va être assez courte. Donc finalement, tout est en train, encore une fois, de se déplacer à l'automne, en fait. À l'automne et à l'hiver prochain, en croisant les doigts, quoi.
Ouais. Parce que j'imagine aussi, si que il y a des nouvelles opportunités pour moins juin, ça va être pas dans une situation normale. Tu
Ah
vois,
oui, c'est ça. Exactement. En plus, ça, c'est encore un autre gros problème, c'est que même si on nous permet de rouvrir, ce sera de toute façon pas dans une situation normale. Et donc, on ne pourra pas programmer tout ce qu'on veut. Par exemple, des artistes internationaux ou des projets avec beaucoup de musiciens, je sais pas, un big band, par exemple, si on doit respecter 1,50 m entre les musiciens, déjà, par exemple, à la Jazz Station, on peut faire le concert, mais sans public, quoi. Ou alors avec 5 personnes. Mais aussi, voilà, une question aussi financière, parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont en difficulté financière, si ce n'est la totalité des lieux qui sont en difficulté. À la Jazz Station, on a la chance d'avoir des subventions et d'avoir eu quand même des aides non négligeables l'année dernière, et on en aura un peu cette année aussi. En tout cas, j'espère, c'est ce qui a été annoncé, qui vont nous permettre quand même de tenir la route, mais au niveau des cachets, au niveau de. Si on a une jauge de 30 personnes dans la salle, on ne peut pas payer les cachets d'un groupe international reconnu, donc on doit aussi revoir notre programmation à ce niveau-là.
Oui. Et aussi, comme tu as déjà dit, que le Jazz Station a son propre studio. Donc, je pense que c'était commencé en 2019, que vous avez fait un crowdfunding
Ouais.
pour développer un studio d'enregistrement, pour faire des podcasts, des choses comme ça. Est-ce que cette période qui vient de passer n'a pas aidé pour vraiment développer, ou c'est quand même avec l'énergie négative que c'est quand même pas vraiment développé comme vous le souhaitez au départ?
Alors, je veux pas être complètement déprimant
Non.
non plus, mais c'est vrai que on a fait beaucoup de choses au printemps, à la sortie du premier confinement. Je crois qu'on était dans une belle énergie à ce niveau-là. Voilà, relancer le projet de podcast et de captation vidéo. Donc ça s'appelle Jazz Lines en fait.
Tout à fait, oui.
Donc ça, on peut le voir sur notre site internet ou sur SoundCloud ou YouTube. Donc on a fait quelques podcasts et des sessions, des live sessions. Mais on a fait aussi un cycle, c'était aussi pour un peu parler du déconfinement et de la reprise. C'est-à-dire on a fait deux cycles, un cycle de vidéos qui s'appelle E-Live, Jazz Station E-Live, donc c'est 10 fois 30 minutes de concert filmé, où là c'était vraiment des cartes blanches laissées aux artistes. Donc ça, On est hyper content d'avoir pu faire ça parce qu'on a travaillé avec une super équipe technique. Les artistes étaient hyper contents de pouvoir le faire. Et puis comme c'était sur le principe de la carte blanche aussi, c'était des belles découvertes, c'était des projets assez inédits en fait pour la plupart et complètement à l'image de notre programmation. Donc c'est pour tous les goûts en fait. Il y a tous les styles confondus. Et on a fait un autre cycle qui est là que un cycle radio podcast. Et qui en fait, on a interviewé les artistes qui venaient répéter chez nous juste après le confinement. Donc en fait, on enregistrait une partie des répétitions avec l'autorisation des artistes évidemment. Et puis après, on leur demandait aussi individuellement de parler un peu de comment ils ont ressenti le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont restés créatifs, est-ce que ça leur a fait, est-ce que ça les a fait se remettre en question. Par rapport à leur art, par rapport à leur composition, par rapport à des albums en projet, est-ce que ça a changé aussi financièrement pour eux? Enfin, ce genre de choses. Donc, on a appelé ça Locked Out. Et donc, c'était aussi une façon de donner la parole aux gens qu'on avait oubliés en fait, pendant ce premier confinement, c'est-à-dire en fait les artistes qui ont été complètement oubliés à ce moment-là. Les aides sont arrivées très tard pour eux. Enfin, et en plus, c'était des aides complètement indirectes, c'est-à-dire que c'était des aides pour les lieux subventionnés pour qu'ils payent eux-mêmes les artistes, donc c'était assez confus à ce niveau-là. Donc voilà, ces deux cycles-là ont été, je trouve, très productifs pour nous et nous ont mis dans une belle énergie, cet été. En septembre et en octobre, on a repris quelques concerts, donc là, on était plus dans une énergie de live, d'essayer de fêter comme on pouvait nos 15 ans, et puis aussi Chaque semaine, on devait réagir aux nouvelles mesures. Ça aussi, c'était très compliqué parce que toutes les semaines, les conditions changeaient pour l'accueil du public. Donc, on n'était pas du tout dans une énergie de faire des choses dans le studio. On était plus concentré sur le rapport avec le public et la musique en live. Et alors après, le deuxième confinement, j'avoue que moi, personnellement, ça m'a donné un petit coup de matraque derrière la tête en termes de volonté, en fait, de continuer à créer des choses. Donc, il y a eu tout un temps. Octobre, novembre, où on était un petit peu down comme ça, où on savait pas trop quoi faire. On attendait un peu la fin de l'année, en fait, j'avoue. Et puis là, depuis décembre, janvier, déjà, on a repris les résidences artistiques chez nous. Donc, il y a une nouvelle vie aussi dans nos locaux. Donc, on reprend aussi un peu Jazz Lines. On va refaire des podcasts, on va refaire des interviews, refaire des sessions live. Ça reprend petit à petit depuis quelques semaines, là.
Et est-ce que l'aspect de podcast est facile pour le diffuser au public? Parce que, OK, Gestation est connu pour ses concerts, donc le public trouve facilement leur chemin vers le Gestation, mais pour les podcasts, c'est vraiment un autre métier, et donc il faut trouver des autres réseaux pour que les gens vont écouter ces podcasts.
Ah oui, complètement. En fait, déjà, c'est pas du tout notre métier de base. C'est en plus un studio qui est basé sur. C'est un projet collaboratif. Donc chacun vient un peu avec ses projets. On fait ça à la débrouille. On n'est pas des professionnels de la radio. Donc voilà, il y a des choses. Techniquement, c'est pas toujours parfait. Mais en même temps, c'est un peu l'idée de ce projet. Donc forcément, en termes de diffusion, on n'a pas le temps, l'équipe. On n'est pas assez nombreux. On n'a pas non plus le temps de vraiment travailler sur un pôle pour faire de la diffusion sur ces podcasts. Par contre, ça vient toujours en complément de nos activités, donc on essaye de toucher le public aussi en disant, bon, voilà, on a tel concert qui arrive, mais n'hésitez pas à aller écouter aussi l'interview qu'on a faite de cet artiste-là via Jazz Lines, ou alors on a fait telle thématique. Mais c'est vrai qu'en termes d'audience, c'est pas glorieux, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche, c'est juste d'avoir un complément de nos activités et de montrer qu'on peut avoir un accès au jazz d'une autre manière que simplement en allant voir des concerts. Mais aussi, on est dans une période, là, depuis encore plus avec le confinement, où tout se fait en fait online. Donc il y a énormément de streaming, il y a énormément de podcasts qui sont créés. Donc voilà. Évidemment, les choses sont un peu noyées dans la masse, mais c'est pas grave. En fait, il y a une sorte de profusion de choses, et puis ben voilà, les gens qui s'intéressent à la Jazz Station peuvent avoir facilement accès à nos vidéos, à nos podcasts, parce qu'on en parle régulièrement, et puis tout est accessible directement sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Donc, si on s'intéresse à nous, on trouve facilement l'info. Après, voilà, à nous de travailler. On en parle maintenant à la radio, mais voilà, à chaque fois que je fais une intervention à l'extérieur ou qu'on fait une une communication. On essaye, voilà, de créer un peu des passerelles entre, certes, ce pourquoi on est les plus connus, c'est-à-dire nos concerts, et bah, tout ce qu'on fait à côté, quoi. Puisqu'on fait, en fait, finalement, on fait plein d'autres choses en dehors de nos activités, on va dire, directement liées au public. C'est-à-dire qu'on a des cours sur l'histoire du jazz, on a des expositions d'habitude, on a des cours de chant, des résidences, des workshops, des masterclass. Voilà, toutes ces choses-là, on ne peut plus les faire pour le moment, évidemment. Mais le fait de rajouter des podcasts, ça permet aussi de faire connaître ces activités-là. Donc, on a essayé de créer un peu une toile d'araignée comme ça qui relie toutes les activités qu'on fait. Et donc, ces podcasts permettent de mettre en valeur ça. Donc, voilà, ça reste encore assez intime comme diffusion. Mais voilà, on espère que petit à petit, ça pourra intéresser des gens, quoi.
Au moment qu'il y a des concerts, il y a l'interaction avec le public. Si tu as un concert, tu es là, tu parles avec le public. Comment faire maintenant les échanges avec le public? Est-ce qu'il y a encore un échange avec le public actuellement?
Alors honnêtement, pas vraiment à part sur les réseaux sociaux. On a des habitués, même des amis maintenant, on peut dire ça, de longue date, qui venaient régulièrement voir nos concerts, qui nous envoient des messages de temps en temps pour savoir comment on va et si on a des nouvelles, etc. Donc ça nous fait extrêmement plaisir. Après, les interactions avec le public sont quand même assez limitées. Elles apparaissent, ces interactions, quand on diffuse quelque chose. Par exemple, quand on a fait notre cycle de vidéos, là, on a eu des retours avec le public, puis on a pu un peu échanger, mais ça reste très numérique, en fait, comme interaction. Donc, ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender les gens, de travailler, etc. Les interactions qu'on a principales sont en fait avec les artistes, hein.
Voilà, c'est ça.
Quand ils viennent répéter, quand ils viennent travailler pour faire des enregistrements ou ce genre de choses-là, c'est là vraiment qu'on retrouve le rapport humain quasiment tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire que on essaye d'être un lieu le plus accueillant possible, le plus propice à la création aussi, c'est-à-dire que les musiciens et les musiciennes puissent se sentir vraiment chez eux, chez elles, et qu'ils soient dans un environnement safe, en fait. Voilà, qu'ils puissent arriver là, oublier tout le reste, travailler, avoir quasiment tout ce qu'il leur faut à leur disposition gratuitement. Et voilà, ils viennent 4 heures et après ils rentrent chez eux et ils peuvent sortir de leur bulle. Mais en tout cas, voilà, essayer de créer une bulle de confiance et de positivité aussi par rapport à leur travail, de leur dire, voilà, on a cet espace-là, utilisez-le. Donc là, on retrouve vraiment de plus en plus les dialogues qu'on pouvait avoir auparavant. Après, voilà, on va pas se le cacher, c'est comme avec tout le monde, les trois quarts des discussions, on parle de la pandémie, hein. Donc c'est pas forcément réjouissant à chaque fois, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de résilience chez les artistes comme chez les organisateurs de concerts, beaucoup de résilience, pas mal de solidarité. Et je crois ça fait du bien, en fait, d'extérioriser les choses et d'en parler, même si c'est pour dire des choses complètement déprimantes. Je crois que ça fait quand même du bien de montrer et de comprendre qu'on est tous, dans le monde entier, en tout cas pour le secteur culturel, dans la même situation. Et ça c'est quelque chose d'assez unique, et ça fait moins râler aussi, en fait. Ça fait un peu, voilà, prendre vraiment du recul par rapport aux choses, en disant, de toute façon, en plus, c'est ce qu'on dit souvent avec l'équipe, hein, c'est, de toute façon, on ne peut absolument rien y faire pour le moment, donc autant essayer d'être stoïque et de laisser passer la tempête du mieux qu'on peut, quoi.
Est-ce que le Gestation pense déjà pour le futur, c'est-à-dire en septembre, octobre, dans l'idée que le Gestation peut à nouveau réouvrir les portes pour tout le monde, sans limitation, peut-être pas en septembre, peut-être après, mais est-ce que le Gestation y a réfléchi de leur plan futur? Est-ce qu'il y a peut-être des changements? Parce que j'imagine que vous avez fait aussi des évaluations sur les 15 ans que le Gestation existe. Je pense au moment qu'il y a une réouverture, c'est le moment de dire, OK, ça et ça, on ne fait plus, mais on va plutôt se développer dans telle et telle direction.
Bah oui, alors en fait, on va surtout, évidemment, hein, on réfléchit à ça, et puis moi en particulier beaucoup. Oui, je crois qu'on va, en fait, déjà dans un court terme, va y avoir une énergie de un peu rattraper le temps perdu. Et donc d'essayer de tendre. Alors bon, on n'est que quatre dans l'équipe, donc on peut pas non plus. On n'est pas Superman, quoi, donc on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on voudrait. Mais j'aimerais bien qu'on ait plus un côté laboratoire aussi. Donc c'est des choses qu'on essayait de construire petit à petit ces dernières années, mais là j'aimerais vraiment bien qu'on les acte. Donc avoir un petit peu plus de jam session, avoir un petit peu plus de carte blanche qu'on en avait, avoir plus aussi de soutien aux jeunes artistes. Donc voilà, ça c'est des choses dont on doit encore discuter avec l'équipe pour vraiment voir dans quelle direction on se porte. Avoir aussi ouvrir les murs de la Jazz Station, c'est-à-dire essayer de consolider les partenariats qu'on peut avoir avec d'autres salles ou avec d'autres festivals ou même avec des structures qui ne sont pas forcément des structures de diffusion, mais qui sont des structures liées au jazz, et pouvoir voilà, créer des passerelles, parce que je crois que ce que ça nous a appris la pandémie, c'est aussi à se serrer les coudes et à se fédérer, en fait, et à échanger des idées et à montrer qu'on peut travailler ensemble sans être en concurrence, ce genre de choses. Après, voilà, au niveau de la programmation, ça, par contre, jusqu'à nouvel ordre, on ne changera pas notre ligne de conduite. Je crois que c'est pour ça qu'on a notre réputation et on est très fiers de notre programmation. Donc ça, on ne changera pas notre façon de faire. Et alors après, il y a la grande question du numérique, du streaming, de ce genre de choses. Moi, j'avoue que je suis pas du tout... Enfin, je suis très frileux par rapport au streaming. Je crois que c'est pas le même métier, en fait. Nous, on travaille sur le live, on est une salle de live, donc ça ne nous empêchera pas de faire des choses, de filmer ou enregistrer en complément, mais je ne me vois pas transformer notre vision et nos perspectives pour faire du streaming, pour essayer de toucher un public plus large. J'y crois pas trop, je crois pas que c'est notre mission. Donc voilà, sur ces questions-là, je pense qu'on ne changera pas trop par contre.
Comment te sentent les artistes au moment qu'ils enregistrent un streaming? Parce que en général, avant la pandémie, c'était facile. Il y a un streaming, souvent les musiciens jouaient devant un public. Maintenant, pour le streaming, c'est sans public. Et le jazz, c'est quand même un genre de musique, un style de musique où que le public est très important. Il y a souvent une interaction entre musiciens, mais aussi musiciens-public et sans public. J'ai souvent l'impression que c'est pas la même chose, qu'il y a un vide, quelque chose.
Bah oui, on est complètement d'accord. Hein. C'est vraiment pas, comme je disais juste avant, c'est vraiment pas la même chose. Je crois que à la fois c'est nécessaire de continuer à faire des choses. Donc le streaming permet aux artistes de continuer à s'exprimer, de continuer à être dans une création et dans une énergie vitale hyper importante. Mais le fait de jouer sans public, ça apporte quelque chose de très froid et mécanique. Et puis, comme tu l'as dit juste avant, c'est une musique qui demande un rapport avec le public, qui demande à être jouée en live, qui demande à voir les musiciens en vrai, ressentir l'énergie, et pour les musiciens, ressentir l'énergie du public qui l'écoute. C'est valable en jazz, mais c'est valable dans toutes les musiques, mais en particulier en jazz. Et je pense aussi que pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter du jazz, c'est pas le streaming qui va leur donner envie de se lancer dans cette musique-là, parce que voilà, c'est une musique qui peut paraître des fois compliquée, qui peut paraître des fois inaccessible, et le fait de le voir derrière son écran, ben, je comprends qu'on décroche en fait. Je comprends qu'on décroche parce que c'est pas la même chose que se déplacer dans une salle de concert, que faire dans l'énergie de se déplacer pour aller dans une salle de concert, on est déjà dans une position d'écoute, on est déjà dans une position de réception par rapport à la musique. Et donc après, voilà, on est convaincu ou on est déçu, mais on est quand même dans une démarche de curiosité et d'énergie positive par rapport à la musique. Alors que avec le streaming, en tant que spectateur, on est complètement passif par rapport à ça. On reçoit la musique, mais on ne va pas vers la musique. Et donc là, il y a quelque chose, je pense, encore à travailler. Alors peut-être que, voilà, avec des évolutions numériques, on arrivera un jour à faire que ça marche. Mais pour l'instant, ça ne marche pas trop. Alors après, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de créativité en termes de scénographie, de façon de présenter sa musique, de façon de filmer, de façon d'enregistrer les choses, de trouver des lieux assez assez intéressant aussi de sortir la musique de la scène, en fait. Donc ça, ce côté-là est assez intéressant, mais j'ai peur que ça reste assez anecdotique finalement par rapport au travail d'un musicien ou d'une musicienne sur scène.
Peut-être que ça peut aider pour créer encore des clips vidéo
Complètement.
dans
Ça
ce sens-là.
crée de la matière, ça crée de la
Ouais.
matière, ça permet d'avoir des outils de communication et de diffusion pour plus
Voilà.
tard aussi. Et puis ça peut permettre aussi de se faire connaître, hein, puisque si une vidéo peut très très vite, bah on le voit bien, hein, avec Internet, une vidéo peut très très vite faire le buzz, ou même si c'est pas le buzz, mais juste très très vite être partagée, diffusée, échangée avec ses amis. On peut mettre un streaming en soirée. Enfin voilà, il y a quand même un moyen de diffuser sa musique. Et après, bon voilà, l'autre problème qui va se poser énormément, et là, on n'en parle pas beaucoup pour le moment, mais ça commence, c'est les droits d'auteur, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça
Voilà.
dénature complètement, la professionnalisation des artistes.
Parce que la question, c'est aussi un streaming, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de types de streaming différentes.
Oui, complètement. Il y a énormément de types de streaming complètement différents. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'artistes amateurs qui se sont mis à faire du streaming et qui ont acquis une réputation dans tous les styles de musique confondus, en particulier dans ce qu'on appelle, je déteste ce terme, mais on appelle ça musique urbaine, mais on va dire rap et ses dérivés, des artistes complètement amateurs qui ont enregistré des choses chez eux ou dans un petit studio pendant le confinement et qui ont une réputation énorme actuellement, mais qui sont absolument pas professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça juste comme ça, pour faire quelque chose, et qui sont complètement dépassés par le succès de leur morceau. En général, ils n'ont fait qu'un seul morceau. Ils n'ont pas de droit d'auteur sur leur morceau, parce qu'ils se font complètement noyés par YouTube, Spotify, TikTok, etc. C'est très difficile de trouver une structure d'encadrement maintenant. Et donc voilà, toute la musique qui sort en ce moment va appartenir à on ne sait pas qui, mais en tout cas certainement pas aux artistes. Donc à part les artistes qui sont très bien entourés actuellement, je crois qu'il va y avoir un peu une sorte de marécage au niveau de ce qui s'est produit entre mars 2020 et je ne sais pas quand après, mais ouais, ça va poser beaucoup de questions, je crois.
À l'époque, c'était de vendre des disques. Maintenant, c'est aussi le streaming qui a remplacé. J'espère pas que le streaming va remplacer les concerts, parce que c'est presque impossible de le remplacer. Il faut le sentir, il faut.
Bah, je suis d'accord avec toi. Après, il faut être vigilant parce que tout nous pousse à, et je parle pas que de musique, je parle de vie en général, encore plus avec la pandémie, tout nous pousse à utiliser son ordinateur ou son smartphone pour tout faire. Donc, j'ai l'impression qu'on nous pousse quand même de plus en plus à faire du streaming.
Ouais.
Donc, ouais, faut être vigilant par rapport à ça, mais je crois qu'on est suffisamment nombreux et nombreuses dans le milieu pour résister quand même à ça. On verra. C'est une question d'argent, en fait, hein.
Ouais.
Une
Bah,
question de où va l'argent.
et peut-être qu'il y a aussi déjà réfléchir comment trouver un moyen que les gens reviennent à ce lieu-là et qu'ils vont sentir que le live, c'est différent qu'un stream.
C'est ça. Oui, c'est ça va être
Le
vraiment
challenge.
le nœud du challenge. Au final, j'ai l'impression qu'on va devenir un peu alternatif. En fait, les lieux de live seront les lieux un peu alternatifs par rapport au streaming, mais bon, voilà, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça peut encore changer. Je crois que les gens continueront. On ne peut pas remplacer, alors je ne parle pas de la Jazz Station, mais on ne peut pas remplacer l'énergie d'aller dans un festival, d'être debout, de danser ensemble avec de la musique, de se faire complètement emplir par la musique qu'on entend. On ne peut pas faire ça dans son salon.
Non, tout à fait.
C'est impossible. Donc, on peut avoir de très belles expériences en écoutant de la musique chez soi, mais on ne remplacera jamais l'énergie d'un concert en live. Jamais.
Non, et
Donc, je
aussi,
pense que les gens en ont conscience. Il
ouais.
faut aussi leur faire confiance à ce niveau-là.
Mais aussi un point fort pour Jazz Station, c'est le public qui vient au Jazz Station. La majorité écoute la musique et c'est pas dans beaucoup de lieux où que les gens viennent plutôt pour le socializing ou qu'ils papotent durant le concert. Au
Ouais,
Jazz
ça c'est
Station,
encore.
c'est vraiment l'écoute qui compte.
C'est ça, c'est encore une autre énergie. C'est vraiment. Et on a la chance d'avoir ça dans notre salle, d'avoir vraiment deux phases dans un moment de concert, dans une soirée. C'est-à-dire, il y a vraiment le moment de la musique où là on est dans une écoute vraiment quasi spirituelle hein, d'un rapport entre les artistes et le public sur scène, et les artistes en parlent à chaque fois de l'écoute qu'il y a dans notre salle, et le côté club, petite salle, dès que la musique est terminée, avant le concert ou à la pause ou après, où là c'est vraiment les gens parlent ensemble, même des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent à ce moment-là. Les artistes sont très accessibles, puisqu'en général ils viennent boire un verre aussi. Au bar, donc voilà, là on est dans un truc vraiment très social et très convivial, mais le moment de la musique est très. C'est un moment un peu hors du temps, ouais, complètement. Mais donc vraiment, oui, ça aussi c'est encore une autre façon d'appréhender le live, et je crois que dans notre salle, le streaming pourra jamais remplacer l'énergie qu'il y a dans notre salle, ça c'est sûr. Enfin, j'espère, ça ferait peur un peu sinon, mais.
Ouais. Bah, c'est un peu lié à chaque salle. Chaque salle a un peu son profil, son identité, et les
Oui,
gens viennent justement pour ça, pour qu'ils
évidemment,
se sentent
évidemment.
bien dedans. Et je pense que le plus dur va être en nouveau d'arriver que le public, okay, comme tu disais au départ, il y a un public fidèle, mais
Ouais.
peut-être aussi pour trouver le public qui est pas du tout fidèle, qui vient spontanément à ce lieu-là. Ça va être peut-être beaucoup plus compliqué
C'est
pour le
vrai, c'est
futur.
vrai. Je pense que tout le travail qu'on avait fait jusqu'à présent pour amener ce public-là qui ne connaît pas forcément la Jazz Station ou le jazz chez nous, il va falloir le recommencer.
Donc, j'aimerais te remercier pour ton temps, Kostia
Ben,
Pache.
merci à
Un
toi.
très, très grand merci
Oui.
et beaucoup de courage. Et j'espère que nos chemins vont se croiser dans le futur proche.
Ben oui, j'espère aussi. En tout cas, oui, on est là. On
Voilà.
est prêt. On est prêt à reprendre, et on garde le cap. On est quand même dans une bonne énergie, et on est solide.
Ouais.
Donc voilà,
Et
on est
aussi
là.
beaucoup d'énergie pour l'équipe.
Ouais,
Parce que
bah merci,
c'est
ouais.
avec
Ouais.
l'équipe que ça marche.
C'est ça. C'est une équipe super là. Tout le monde est très dans une bonne énergie.